Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue, très heureux de vous retrouver encore une fois à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique, toulousaine et régionale. Nous voici donc déjà en février, en plein cœur de l'hiver, saison où il fait bon se retrouver dans les salles de concert. Des salles qui ne désemplissent guère à Toulouse et autour, comme nous le rapportons dans cette émission chaque semaine. Celle à venir va être l'occasion de confirmer cette tendance avec trois concerts très originaux, dans des genres différents. Pour vous les présenter, je reçois encore deux invités aujourd'hui. Toujours fidèle au poste, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Il est accompagné de José Filatro, coordinateur de la classe jazz, musique actuelle et improvisée au Conservatoire Rayonnement Régional de Toulouse, où il enseigne la batterie. Et si José Filatro est notre invité d'honneur pour ce numéro, c'est parce qu'il fait partie du trio de percussionnistes Trilogistique qui donne un concert à Saint-Pierre-des-Cuisines lundi prochain, le 13 février, dans le cadre de la saison des Clés de Saint-Pierre. Nous allons vous en dire plus en seconde partie d'émission sur ce concert et sur son programme. Dans l'immédiat, c'est l'actualité musicale récente qui va nous intéresser. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Dans l'actualité de la semaine passée, l'événement principal, c'était le concert de l'Orchestre National du Capitole samedi à la Halle aux Grains, dirigé par le chef américain Robert Trevino, avec le tout jeune pianiste israélien Tom Borrow en soliste invité. Et qui était dans la salle, devinez ? Eh bien, c'était Serge Chauzy, bien sûr. Et il y avait deux grandes et belles œuvres au menu de cette soirée. Serge, quelle était la première ?
Alors, deux œuvres extrêmement différentes. La première était le concerto en sol, le fameux concerto en sol de Ravel, composé par Ravel en même temps que son concerto pour la main gauche, mais très différent de caractère. Et puis une symphonie de Chostakovitch, la 11e, à laquelle j'assistais pour la première fois. Et c'était une première à Toulouse. Ça n'avait jamais été donné. Pourtant, une symphonie qui date de 1957, mais c'était...
Oui, il y en a 15, alors évidemment, il y a quelques-unes qui passent à travers le tamis.
Bien sûr. Voilà, et donc l'Orchestre National du Capitole était dirigé pour la troisième fois par le chef américain d'origine mexicaine Robert Trevino, donc qui est actuellement le directeur musical de l'Orchestre National Basque, le chef principal invité de l'Orchestre Symphonique National de la RAI et le conseiller artistique de l'Orchestre Symphonique de Malmö. Donc, vous voyez, il accumule les responsabilités. Il était déjà venu donc en 2021 et 2022 à la Halle aux Grains pour diriger l'Orchestre National du Capitole, alors que Tom Borrow, lui, avait fait ses débuts, mais en septembre 2021, dans le cadre du Festival Piano Jacobin. Il n'était encore pas venu avec orchestre, donc, à la Halle aux Grains. Et puis, on découvrait aussi, et ce n'est pas la première fois qu'elle jouait là, la jeune violoniste coréenne nouvellement nommée à l'orchestre qui s'appelle Jaewon Kim. Donc, vous voyez, il y avait trois grandes vedettes en quelque sorte. Et donc, le concert s'ouvrait sur ce lumineux concerto en sol. Alors, il y a eu une petite histoire avec Tom Borrow, parce qu'il a, en quelque sorte, il a été révélé au grand public lorsqu'il a remplacé, au dernier moment, la pianiste Katia Bugnatichvili dans ce concerto. Et donc, il se l'est un peu approprié. Et effectivement, il en a une vision très personnelle. Hein. Ainsi, il aborde le premier violet, non allegramento, hein, mais sur un tempo retenu. Ça n'est pas un déferlement.
Ça tranche avec la plupart des interprétations.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est très convaincant et très bien fait. Il y a un beau respect de l'équilibre sonore entre l'orchestre et le pianiste, ce qui est quand même important. Et puis, ce concerto est en même temps un petit challenge pour certains solistes de l'orchestre, en particulier... C'est quand même un trait d'orchestre de la trompette solo qui débute le premier mouvement, qui est redoutable. Puis il y a dans ce premier mouvement aussi un solo de corps magnifique et incroyable.
Oui, les cuivres sont à la fête. Hein,
ah oui, complètement.
Mouvement.
Et donc les deux solistes magnifiques, hein, on fait ça avec dont René-Gilles Rousselot, il faut les nommer quand même, eux aussi, à la trompette. Et Thibaut Hoquet au corps, on fait ça de manière magistrale. Ensuite, on a eu droit à un adagio assai, vraiment d'une grande poésie, d'une grande profondeur, sous les doigts du pianiste. Et là, on a eu droit aussi au solo nostalgique de cor anglais de Gabriel Zanemboni, qu'on connaît bien à l'orchestre, qui a une sonorité magnifique. Et puis enfin, tout s'est terminé par la virtuosité que l'on connaît de ce concerto, donc avec une coda irrésistible. Ça a été longuement acclamé par le public, au point qu'évidemment Tombeau est revenu pour un bis. Et en bis, il a joué un des préludes de Sergueï Rachmaninov avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de finesse et de subtilité.
Mais c'était assez malin de jouer Rachmaninov, ça faisait une transition vers l'autre russe, Shostakovich.
Voilà, qui était au programme.
Et puis c'est l'année Rachmaninov, hein, puisque cette année nous célébrons le 150e anniversaire de sa naissance, mais aussi nous commémorons le 80e anniversaire de sa mort. C'était une grande année Rachmaninov.
Double année.
Nous allons écouter une nouvelle fois Tombeau dans ses œuvres et dans le fameux Adagio Assai, le deuxième mouvement, le mouvement lent du concerto en sol de Maurice Ravel. L'Adagio Assai, le deuxième mouvement du concerto en sol de Maurice Ravel, interprété par Tombeau, accompagné ici par l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Il y avait donc une seconde œuvre au programme du concert donné par l'Orchestre du Capitole samedi dernier, sous la direction toujours de Robert Trevino, et pas des moindres, la monumentale 11e symphonie de Dmitri Shostakovich. Elle dure à peu près une heure, et je crois que c'était la première fois que l'Orchestre du Capitole la jouait sur le plateau de la Halle au Grand Serge.
Oui, je me suis renseigné. Pour ma part, je ne l'avais jamais vu exécuter. Et puis, je me suis renseigné auprès des musiciens les plus anciens de l'orchestre. Ils ne la connaissaient pas, ils ne l'avaient jamais jouée non plus. Donc, c'est une symphonie vraiment incroyable, hein, d'une grande complexité harmonique, rythmique. Et donc, une symphonie qui a un argument, puisqu'elle est sous-titrée « L'année 1905 ». Alors, on sait ce qui s'est passé en Russie en 1905, c'était les prémices de la Grande Révolution.
Ce qu'on a appelé le Dimanche Rouge.
C'est ce Dimanche Rouge que Shostakovich a voulu illustrer, mais il faut se souvenir que La musique de Chostakovitch est pleine d'ambiguïté.
Ah oui, oui.
Et pleine de double langage. Et alors, ce qui apparaît quelquefois comme un hommage à la révolution bolchevique, eh ben, parfois, il y a des sous-textes, en quelque sorte. Et lui-même a dit de cette musique-là, de cette symphonie, c'est un phénomène actuel. Il y est question du peuple qui a perdu la foi, car il y a vraiment eu trop de crimes commis. Donc, bon, il a vécu une vie d'angoisse, hein, Chostakovitch.
Qui passe souvent dans sa musique, d'ailleurs.
Ah oui, mais qui passe,
c'est très présent.
Et là, ça passe aussi, hein. En fait, la partition, plus qu'une symphonie, presque, c'est un poème symphonique, puisque chaque mouvement porte un sous-titre,
oui,
et évoque l'un des événements tragiques de la révolte de 1905. Alors, ça demande un orchestre énorme. Notamment, c'est la première fois que je vois 10 contrebasses au sein de l'orchestre du Capitole. Bon, c'est pas si courant. Et là, alors, je dois dire que Robert Trevino a fait des merveilles. Hein. On peut dire qu'il a porté en incandescence tout l'orchestre, hein, et avec une précision parfaite. Parce qu'il y a besoin des deux. Hein. Il ne suffit pas d'être enthousiaste et puis de laisser un peu couler.
Et pendant une heure, parce qu'il faut tenir la distance.
Et pendant une heure, avec le premier volet. Alors, le premier volet s'intitule « La place du palais ». Et c'est un adagio terrible, tendu, qui démarre avec les pupitres de cordes qui sortent du silence, mais on sent qu'il va se passer des choses épouvantables. Et puis donc, c'est la préparation en quelque sorte. Et le deuxième mouvement, c'est ce qui s'est passé vraiment, avec des centaines de morts, hein, puisque la manifestation...
Ça se passait sur la place du Palais d'Hiver, donc
sur la place
à Saint-Pétersbourg,
du Palais, voilà,
le 9 janvier 1905, pour être précis.
Exactement, avec des événements dramatiques qui transparaissent dans la musique, évidemment, notamment avec le traitement des trompettes, encore une fois, qui interviennent par des sonneries terribles, terribles, hein, qui font frémir. Et puis ensuite, il y a un allegro qui illustre là, les événements. Alors, c'est l'agitation tragique qui est scandée alors par des citations que Chostakovitch a empruntées à des chants patriotiques. Il a réutilisé dans sa symphonie des chants patriotiques de l'époque. Donc là c'est la désolation, la souffrance, la colère, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et puis encore un adagio avec un chant de deuil révolutionnaire qui est là aussi utilisé, hein, comme matériau symphonique. Une grande émotion, vraiment une grande émotion dans tout cet adagio. Et puis un allegro final, allegro non trop. Alors là, il est intitulé, on voit ce que ça prédit, c'est le tocsin. Et ce mouvement qui est une véritable explosion s'achève par des sonneries de cloches. Et alors, pour l'occasion, il y avait des cloches énormes sur scène, hein, donc, qui avaient d'ailleurs été prêtées par l'orchestre basque dont s'occupe...
Donc Robert Trevino avait apporté ça dans ses valises.
Il les a apportées, je ne pense pas, non, pas dans ses valises, mais il les a apportées effectivement. Et alors, vraiment, cette apocalypse est stupéfiante, et puis il y a des choses incroyables, notamment la manière dont ça s'achève. Ça s'achève de manière complètement inattendue, on a l'impression que ça reste en suspens. Et simplement, ce qu'on entend...
Des vibrations, c'est des cloches qui se prolongent.
Exactement. Le prolongement de la résonance des cloches, c'est un effet dramatique qui serre la gorge. Vraiment, c'est effrayant. Hein. Et là, à ce point que le chef a laissé le bras levé, pendant des secondes et des secondes, le public est resté silencieux, sidéré, et les applaudissements ne sont venus que plus tard. Mais alors, un véritable triomphe. Hein. Là, vraiment, ça a été un vrai triomphe. Donc, l'ovation a été méritée. Ça a été vraiment un grand moment que cette symphonie.
Eh bien, voici un extrait de cette symphonie numéro 11 de Dimitri Chostakovitch. Il se situe au milieu du troisième mouvement Adagio et ce mouvement est sous-titré « Mémoire éternelle ». un extrait du troisième mouvement Adagio, Mémoire éternelle de la symphonie numéro 11 de Dimitri Shostakovich dans une version du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigée par Bernard Ettink. Prochain concert de l'Orchestre du Capitole le jeudi 9 février. Il vous sera présenté en seconde partie d'émission. Fin de cette première partie avec l'habituelle petite virgule musicale. Nous allons poursuivre avec la rubrique Agenda, toujours avec Serge Chosy et avec notre invité d'honneur José Filatro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de Mélomanie en compagnie de Serge Chosy et donc de José Filatro, avec lequel nous allons mieux faire connaissance avant d'évoquer le concert qu'il donne lundi prochain, le 13 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, au sein du trio de percussionnistes qu'il forme avec Christophe de Varumez et Thibaut Buchaillet. Ce trio a pris pour nom Trilogistique. Il doit y avoir un jeu de mots. Et il va se produire dans le cadre de la saison des Clés de Saint-Pierre. Nous allons en parler avec vous dans quelques minutes. José Filatro, je disais en début d'émission que vous enseignez la batterie au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, où vous êtes également le coordinateur du département de la classe, je ne sais pas comment il faut dire, jazz, musique actuelle et improvisée. Après avoir dit ça, on a le sentiment que votre monde est plus celui du jazz et de l'improvisation, voire du rock, que celui de la musique dite classique. Mais ce n'est peut-être pas tout à fait vrai en fait.
Oui, en tout cas, aujourd'hui, ça, c'est ce que je joue le plus et ce que j'enseigne le plus, mais je n'ai plus 20 ans et en fait, j'ai un parcours un peu... Oui, j'ai eu la chance de parcourir divers styles, donc j'ai joué pas mal de musique classique, divers instruments aussi, puisque mon premier instrument est la flûte à bec, et donc j'étais plutôt dans la musique ancienne. Puis j'ai la chance d'avoir pu côtoyer l'Orchestre du Capitole et l'Orchestre de Chambre, donc comme musicien supplémentaire. Ça aussi, c'est une des richesses de l'Orchestre de Toulouse. C'est-à-dire qu'on a pu faire des tournées, donc des concerts, mais aussi des opéras et des enregistrements. Dans pas mal d'endroits, les orchestres sont séparés, en tout cas orchestre de fosse et orchestre de tournée. Et c'est la grande richesse de l'Orchestre de Toulouse. Et du coup, ouais, j'ai pu participer pendant quelques années, en tout cas, et approcher ce milieu-là de près.
Donc à l'origine, formation de musicien classique, on peut le dire.
Oui, à l'origine, oui, oui. Donc musique ancienne, flûte à bec, percussion et batterie, parce que la classe s'est ouverte assez tard. Et il se trouvait que j'étais étudiant en ce moment-là, donc j'ai eu la chance de... C'est pas seulement des choix, alors je sais pas pour chacun, ça dépend de chaque musicien, mais pour moi ça a été aussi des opportunités qui ont fait que je suis passé d'un monde musical à un autre.
Par des rencontres aussi peut-être ?
Exactement, des rencontres, et comme je n'ai pas plus de préférence que ça, je me suis toute ma vie un peu laissé porter.
Mais curieux aussi sans doute.
Ah oui, oui, absolument.
Et très ouvert.
Et plus le temps passe, plus je me rends compte que finalement c'est pas si loin, on a les 12 mêmes notes. Et j'ai un de mes professeurs qui me disait « Bon, fiston, tu verras, c'est le même rythme et les mêmes notes, sauf que c'est comme des accents. » Alors, je ne comprenais pas trop bien, mais il me disait « Mais oui, tu vois bien que les gens qui parlent, l'accent du Nord, ce n'est pas le même qu'à Marseille, etc. » Donc, on pourrait dire que le swing, voilà, le Sud, ça swing un peu plus, mais c'est très, très proche. Et plus ça va, plus le temps passe, plus je me rends compte que finalement, c'est pas si loin. Et puis ça, et puis le fait d'enseigner, les jeunes aujourd'hui sont tellement curieux. Je vois dans mes anciens élèves les carrières en fait qu'ils peuvent donc entreprendre. Ils sont toujours entre deux, mais entre deux vraiment, c'est-à-dire avec un vrai respect de chaque langage, chaque culture. Mais les jeunes ont soif de ça maintenant. Alors peut-être les médias ont bien sûr aidé
oui,
à ça.
Oui, je pense que ça doit jouer. Oui.
Mais on a de plus en plus, on évoquait tout à l'heure le nom d'Aurélien Gignoux, parce qu'on était à la percussion. Et Aurélien Gignoux est un excellent batteur, un superbe vibraphoniste jazz. Bon, ben en ce moment, il fait de la musique contemporaine. Mais il n'a pas dit son dernier mot.
Aurélien Gignoux, donc Toulousain, qui a eu il y a 2 ans, si je ne me trompe, l'an dernier, il y a 2 ans, je ne sais même plus, la révélation soliste instrumentale de l'année. Ça doit être 2021 peut-être, bon, peu importe, en tout cas il continue une très belle carrière. Vous avez même eu Big Flo et Oli, je crois, dans vos élèves.
Oui, au même moment, alors justement, puisqu'on parle de ça, Big Flo et Oli, Olivio et Florian, hein, leur vrai prénom. Florian est un excellent percussionniste et batteur, et Olivio joue très très bien la trompette, et finalement il se retrouve à faire du rap, alors il faudrait les inviter hein, pour qu'ils vous racontent leur histoire, mais comme quoi, voilà, alors... Le nerf de la guerre, par contre, là, pour le coup, je fais un tout petit peu de pub, mais oui, les conservatoires, d'abord, se sont ouverts. Et une formation solide, ça fait jamais de mal. La discipline, le travail, et ensuite, ben, finalement,
après, on peut faire ce qu'on veut.
On choisit la musique qu'on veut, et voilà.
On en vient à ce groupe Trilogistique. Est-ce qu'il existe de longue date? Et puis, comment s'est-il formé? Par des amitiés, là aussi par des rencontres? Ou tout simplement parce que, bah, à l'époque où vous étiez à l'Orchestre du Capitole, vous avez déjà côtoyé un certain Christophe de Varumez?
Oui, alors Christophe, c'est non seulement un musicien que j'admire beaucoup, car c'est un des meilleurs coloristes, je trouve, d'orchestre. Il joue les cymbales, toutes les percussions de façon extraordinaire. Donc il a été un exemple pour moi. Bon, aujourd'hui, c'est un ami, parce qu'en plus, c'est vraiment un gars extraordinaire. À l'époque, j'étais supplémentaire à l'orchestre. Et donc, Trilogique était un quatuor. On va employer plutôt le mot classique. Et le bras droit de Michel Plasson, qui s'appelait donc Jacquemin, qui est toujours d'ailleurs aussi au
qu'on croise régulièrement au concert, Serge.
Il continue à venir au concert, bien qu'il ait passé la main. Évidemment.
Alors Claude, je l'ai connu à l'orchestre, et en plus j'avais sa fille qui joue très très bien la batterie et qui habite en Écosse maintenant. Bon, enfin voilà, et donc il avait baptisé le quatuor de percussion quadratonnerre. Parce qu'il était venu à une répétition, et c'est vrai qu'en termes de décibels, on était assez haut.
Ça envoyait.
Voilà. Et donc, il était composé de trois musiciens supplémentaires à l'époque, Luc Bagur, Anthony Lafargue, qui lui est un balier solo à Saint-Sébastien maintenant, Christophe de Varumez et moi-même, voilà. Et donc, Anthony est parti donc, après concours à Saint-Sébastien. Donc, il y a eu quelques changements de line-up. Sébastien Albert, un très très bon batteur, officier chez nous, un petit peu Théo Teboul aussi, qui a enseigné aussi au conservatoire. Et aujourd'hui, le groupe s'est stabilisé autour de Christophe, Thibaut et moi-même.
Alors Thibaut Buchaillet, on en a à peine parlé là, mais bon, lui, il est à l'Orchestre du Capitole aussi, dans le pupitre de percussion depuis, maintenant ça commence à faire quelques années, mais c'est le plus jeune de la bande, c'est le dernier arrivé.
Oui, 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 génial, percussionniste, et avec le son de la nouvelle génération qu'on admire tous. Avec un côté un peu old school, dans le sens où il joue aussi la batterie, parce qu'à l'époque, il y a très longtemps, tous les percussionnistes jouaient la batterie, tous les batteurs jouaient un petit peu de percu, ça s'est un peu perdu, et lui, il est vraiment resté. D'ailleurs, je crois que dès qu'il y a des pièces, Gershwin, voilà, c'est lui qui joue, prend le rôle de batterie, et franchement, c'est un vrai batteur. C'est un vrai bonheur de jouer avec Thibaut.
Qu'est-ce qui vous a réuni musicalement, tous les trois? Parce que, bon, il y en a d'autres, des bons percussionnistes à l'Orchestre National du Capitole, mais il y a quelque chose qui a dû quand même vous réunir. Est-ce qu'il y a des goûts communs? Expliquez-nous un peu ça.
Oui, les milieux, la musique, c'est la musique. Les milieux ne sont pas si éloignés qu'on veut nous le faire croire. C'est plutôt pour les bacs de disques, etc. Il y a des tiroirs, mais en réalité, tous les gens de métier aiment bien souvent une musique de métier et une autre de cœur, comme ça. Et donc, Christophe, lui, très jeune, jouait dans des bals. Je crois que ses parents sont musiciens. Donc, de musique, ce qui est très noble d'ailleurs, la musique pour faire danser les gens, quoi. Donc il vient de là, et justement on parlait de la suite Sandabel, c'est un hommage à tous ces types de danse, la valse, le tango, jusqu'à l'électro, quoi. Ben oui, donc une passion pour la musique, pour toutes les musiques, et aussi la batterie et la percussion, c'est un milieu vraiment spécial, par exemple en termes de ce qu'on appelle les cliniques, les démos de matériel, etc. Le milieu de la batterie est très actif. On a donc les marques de batterie invitent des batteurs vedettes, etc. Il y a beaucoup d'événements autour de la batterie, et avec Christophe on s'est retrouvé régulièrement à aller écouter les mêmes batteurs, etc. Puis bon, voilà, c'est assez marrant, comme un peu des ados qui montent un groupe de rock. On s'est dit, ben pourquoi pas écrire notre propre musique, tout à fait humblement, évidemment. Surtout qu'à l'époque, on jouait à l'orchestre. Enfin, moi, je jouais à l'orchestre et je sais très bien le respect que j'ai pour les grands compositeurs. Mais en même temps, on avait envie de jouer notre musique, mettre un peu tout ce qu'on avait dans le cœur.
De ne rien vous interdire.
Oui, c'est un peu ça. Donc, tout à fait humblement, on a monté un répertoire. Bon, alors on joue pas très souvent, mais régulièrement quand même, et avec beaucoup d'enthousiasme.
Alors, vous jouez depuis combien d'années? Parce que je ne vous ai pas posé la question, tous les trois, là, je veux dire.
Alors, Thibaut, c'est le dernier arrivé, donc ça fait, je ne sais pas trop, peut-être 6-7 ans, mais le groupe existe depuis au moins 20 ans, je pense, au moins, peut-être 30.
Et vous vous produisez en concert chaque année tout de même, ou il peut y avoir des périodes de
creux? Soit des enregistrements, soit des concerts. Aujourd'hui, Thibaut et Christophe travaillent ensemble dans le même orchestre, mais bon, je suis un peu plus freelance et je joue beaucoup à côté en tant que batteur. Mais on trouve toujours le moment, et puis surtout un événement excitant, quoi. Les Clés Saint-Pierre le sont doublement, parce que d'abord, bon, j'ai un grand respect pour cette saison et les solistes et cette musique-là. Mais en même temps, c'est pour moi en tout cas, ce qui est excitant, c'est aussi le moyen de dire... parce que c'est une musique crossover, et d'amener ces couleurs-là de musique actuelle et de jazz dans cette saison, et ce public aussi, peut-être qui n'est pas forcément habitué. Et il n'y a aucune provocation, mais au contraire, dire, bon, mais finalement, vous voyez, les solistes que vous écoutez toutes les semaines à votre orchestre, eh ben, ils jouent aussi cette musique-là, quoi.
Le programme, alors Serge, vous vouliez ajouter quelque chose.
Vos deux compagnons du trio avait un boulot énorme lors de la symphonie de Shostakovitch, du concert dont je vous ai parlé auparavant. Hein.
Je le sais,
ils étaient très présents. Hein.
Je sais, parce que justement, on répétait et ils avaient aussi la tête quand même à moitié ailleurs.
À cette 11e de Shostakovitch.
On a fait nos plannings de répétition par rapport à leur planning aussi d'orchestre.
Oui, bien sûr.
Alors, le programme, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, donc de lundi prochain à Saint-Pierre-des-Cuisines, composé exclusivement de compositions originales de Christophe de Varumez ou de Joseph Filatro.
Oui, voilà. Ben, j'espère que le programme vous plaira parce que je pense qu'il est très varié et on peut y retrouver, en termes de langage, en tout cas la musique contemporaine, c'est sûr, du jazz et beaucoup de musique actuelle, de musique traditionnelle aussi, parce que pendant longtemps, je jouais au Barrio Latino et notamment à Toulouse et notamment avec le père de Big Flory. C'est comme ça que j'ai connu les gamins.
Ah, et comme le monde est petit finalement, de la musique.
Voilà, et donc on jouait au Barrio Latino, on jouait 5-7 par nuit, la salsa et la composition Campana évoque un peu toutes ces années-là. Et voilà, et donc pour la petite anecdote, si aujourd'hui les deux fistons font du rap, c'est parce qu'ils étaient tellement plongés dans la musique de salsa, parce que le père est argentin, qu'en cours, un jour, ils m'ont dit « Bon, c'est déjà fait par le papa, nous, on va faire autre chose. »
Ah oui, en réaction.
Voilà.
C'est une révolte adolescente, en fait. Comment vous composez, vous, d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous inspire? Parce qu'elles ont des titres, vos compositions, en plus. Oui. Le titre, en général, c'est pas au hasard. Hein.
Mais ce sont des titres vraiment mystérieux.
Oui,
hein.
C'est pour ça que je pose la question.
Alors, je pense que c'est plus pour Christophe.
Oui, effectivement.
Moi, je suis un peu plus basique. Campana, c'est l'instrument principal joué dans un orchestre de salsa. Souvent joué par le chanteur, c'est celui qui donne le rythme, le tempo et la façon de danser. Et la campana, c'est donc la cloche de vache, comme ça. Voilà, donc il y en a un autre qui s'appelle 3, en anglais, mais 3 autour d'un, c'est parce qu'on est 3 musiciens autour d'une boîte à rythme. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique.
C'est plus transparent, déjà.
Voilà.
Oui, en tout cas,
Christophe, ça serait bien qu'il soit là. Mais
bon, on va en parler de ses compositions.
Sinon, ce que je propose, dans tous les cas, si vous venez au concert, Christophe est un excellent orateur. Et très drôle en plus, et il vous racontera tout de ses titres et leur signification.
J'espère qu'il y aura une petite présentation avant les pièces pour le
Absolument.
Public.
Absolument, hein. c'est ce que je voulais dire.
Ça me semble nécessaire. Hein.
Christophe est excellent.
On va écouter une des deux œuvres de votre composition qui est au programme de ce concert. On va écouter celle qui a pour titre, vous venez de le citer, Campana, et elle est jouée bien sûr par le trio Trilogy Stick.
Thank you.
Campana, pièce de José Filatro, interprétée par le trio Trilogistique, une de celles que vous allez jouer lundi à Saint-Pierre des Cuisines. Alors celle-ci, bon, vous nous avez parlé d'instruments, mais est-ce qu'il y a autre chose qui vous a inspiré pour composer ce morceau ?
Oui, c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps, je discutais avec un ami avec qui j'ai un groupe qui s'appelle François Rosset, peut-être vous connaissez, non ?
De nom, oui.
Musicien qui était inspecteur et tout ça, et lui qui est fasciné par l'improvisation, il me disait « Oh, finalement, c'est pas si loin, quand on improvise, on compose parce que sinon on bavarde, quoi. On récite des règles, et quand on compose aussi, on ne sait pas exactement d'où ça vient, il y a des règles, mais il y a un genre d'improvisation lente, donc c'est un peu entremêlé, comme j'ai beaucoup joué de batterie, comme je disais... beaucoup de musique salsa aussi, ben voilà, retrouver un peu les couleurs de Cuba.
Oui, il y avait ça, effectivement, qui passait très clairement. Et d'ailleurs, bon, c'est une musique festive aussi. Hein.
Mmh. Bah oui, c'est une musique de danse.
De fête, hein, de danse. Alors, on arrive aux pièces de votre camarade, complice, Christophe de Varumez, lesquelles ont été programmées. Alors, on a parlé de la suite sans Dabel.
Mmh. La suite soit sans Dabel. Alors, bien que ce soit un très bon ami, Christophe, je n'ai pas percé tous les secrets, même quelques décennies après, parce que c'est quelqu'un de très mystique, quand même, tout à fait spécial, excellent musicien.
C'est pas Jezabel, hein, c'est sans Dabel, attention.
Voilà, et donc, en tout cas, cette suite est basée autour de différentes ambiances qu'on pouvait trouver dans les musiques populaires de bal, puisque ses parents étaient musiciens de bal, et lui-même, je crois, a fait ses premiers bals à la batterie à l'âge de 10 ou 12 ans, peut-être plus jeune même. Et donc, on retrouvera une valse traditionnelle musette, bon, évidemment, avec tout le filtre de la musique classique contemporaine de Christophe, alors, mais tout de même, valse, tango, marche, rock et un peu d'électro à la fin d'ailleurs.
Alors les autres titres, allez-y Serge Chosy, je pense que vous les avez sous les yeux.
D'autres titres, oui, il y a, le premier s'appelle bizarrement Hermaliené.
Alors là allez, aussi... allez, je donne une solution et puis pour le reste, je vous laisserai la surprise du concert. Mais je crois que toutes les autres pièces, ce sont des comment on appelle ça quand on mélange les lettres ?
Des anagrammes ?
Voilà, de personnes qui lui tiennent vraiment à cœur. Et je crois que celui-là, c'est Marie-Hélène ou comme ça.
Ah oui, effectivement, Hermaniné, ça peut faire Marie-Hélène.
Voilà. Et donc,
mais ce qui est amusant, c'est que ça se finit par aliéné. Hein. Alors
oui, il y a quand même un jeu de mots.
Voilà, et vous aurez donc des explications. Et donc, c'est des moments de vie avec ces personnes-là.
Oui, parce qu'il y a Athénila, ça doit être Nathalie.
Athénila.
Wow. Oui, bah, celui-là, il est assez transparent aussi. Comme,
voilà, et puis Amanglade.
Alors voilà, ça, donc on aura la surprise lundi prochain.
C'est mystérieux.
Mais c'est sympa parce que je crois que c'est vraiment des moments. Alors lui, pour le coup, lui, il écrit comme ça, c'est vraiment des moments de vie avec ces personnes-là et qui étaient vraiment importants pour lui. Et alors je tiens à dire que c'est le doyen donc du groupe et pourtant c'est le plus moderne en termes de matériel. C'est lui qui manage des samples, les pads électroniques, etc.
C'est un ultra passionné.
Voilà. Donc on aura aussi quelques images sonores de ces moments-là.
Est-ce
voilà,
qu'on sent dans ses compositions que c'est un musicien qui œuvre en orchestre symphonique ?
Absolument. Pour dire la vérité, moi je suis très content qu'on m'ait confié dans l'écriture de quelques pièces, mais humblement, moi, ça reste des musiques populaires, de beaucoup de choses que j'ai pratiquées. Je parlais de la musique de salsa, mais aussi de rock, etc. Et jazz, lui, il a le filtre des symphonies, de pièces comme ça, aussi contemporaines. Et du coup, les formes de ces morceaux sont beaucoup plus classiques, dans le sens noble du terme. Il est aussi très attaché à la percussion, le côté son, matière, etc. Et je pense que mes compositions sont plus basées sur le groove et le swing. Moi, je me régale à jouer ce programme-là parce qu'il est vraiment très varié.
C'est
et puis, ça me permet de garder un gros contact avec la percussion dans le sens premier du terme. Ouais.
Nous allons écouter maintenant une des pièces composées par Christophe de Varumez, un extrait de cette suite sans Dabel, jouée comme il se doit par le groupe Trilogistique.
We'll be right back.
La suite Sandabel, pièce composée par Christophe de Varumez, jouée par le trio Trilogistique, également au programme du concert du lundi 13 février à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et c'est donc dans le cadre de la saison des Clés de Saint-Pierre. Avant cela, dès ce jeudi 9 février à 20h, retour de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains pour un concert qui va être dirigé par Wilson NG. Je ne sais toujours pas comment on prononce le nom de ce chef originaire de Hong Kong. Il va falloir lui demander. Et ce concert a été sous-titré Chant d'amour. Tout un programme et un joli programme, Serge.
Oui, en effet. Alors, il paraît que ce chef d'orchestre, donc, qui est déjà venu diriger l'orchestre et qui est donc né à Hong Kong, il s'amuse beaucoup et il ne dit jamais comment doit se prononcer son nom parce que ça l'amuse d'entendre les gens faire des tentatives, prononcer NG, ça fait ça fait un peu bizarre. Bon, donc voilà, donc il revient avec un tout jeune violoniste qui s'appelle Luca Faulisi et qui est parisien, il est né à Paris. Donc...
Alors il est italo-serbo-français.
Oui,
c'est
d'accord.
Bien ça, hein.
Mais il est né à Paris.
Donc, oui, il est français. Oui.
Donc, c'est vraiment un jeune virtuose
20 ans.
De la nouvelle génération des musiciens actuels, donc, qui a été formé à Paris, d'ailleurs, au CRR. Alors, le chef en question, donc, qui vient diriger, a décidé d'un programme vraiment original.
Ah oui, alors c'est le moins qu'on puisse dire.
Avec comme première œuvre une orchestration de Maurice Ravel, de la danse, c'est-à-dire la tarentelle styrienne de Claude Debussy. Et non pas comme je l'ai entendu une fois à la radio, c'est pas du tout la tarentelle syrienne.
Non, c'est
styrienne.
S-T-Y-R-I-E-2-L.
Avec un T. Donc,
écrite originellement pour le piano.
Écrite pour le
piano. C'est une œuvre de jeunesse de Debussy.
Oui, exactement.
C'est 1890.
Oui. Et donc, dans l'orchestration de Maurice Ravel. Ensuite, on entendra le poème pour violon et orchestre d'Ernest Chausson, qu'on n'entend pas non plus très souvent,
Je n'ai jamais entendu en concert.
Qui est en fait un concerto, un vrai concerto magnifique, très beau, très lyrique. Et donc, c'est un concerto qui est inspiré, il faut le rappeler quand même, d'une nouvelle d'Ivan Tourguenieff, qui s'appelle « Le chant de l'amour triomphant ».
Oui, c'est pour ça qu'il a appelé ça poème, évidemment.
Exactement, poème. Et c'est une œuvre qui avait été dédiée au fameux violoniste belge Eugène Isaïe, donc très célèbre à la fin du XIXe siècle. Et puis ensuite, une symphonie, là aussi assez rarement donnée, de Sir Edward Elgar, la première symphonie,
la première des trois symphonies.
Écrite par Edward Elgar.
Mais composée tardivement, parce qu'il avait 50 ans quand il la compose.
Oui, exactement. Alors c'est une symphonie qui a été créée sous la direction d'Hans Richter, grand chef d'orchestre de l'époque, et qui a remporté un véritable triomphe, immédiatement, un triomphe public. Richter lui-même l'a qualifié de plus grande symphonie des temps modernes.
Oui, pour certains, c'était la plus grande depuis Beethoven, même.
Ah oui, puisque il a, alors, c'est Arthur Nikisch qui l'a qualifié de 5e symphonie de Brahms.
Oui.
Un peu comme on avait dit que la première symphonie de Brahms, c'était la 10e de Beethoven. C'est un peu la même chose. Donc, voilà, trois œuvres très, très différentes et très nouvelles, très rares. Donc, c'est une chance.
C'est une soirée à ne pas rater, vraiment.
Ah oui. Donc, on est très heureux d'avoir ce programme par deux vraiment jeunes et brillants invités de l'orchestre.
Petit aperçu de ce très joli programme avec cette version de la danse, la tarentelle styrienne de Claude Debussy dans l'orchestration de Maurice Ravel. Thank you. La danse, la tarentelle styrienne de Claude Debussy, orchestrée par Maurice Ravel, qui doit donc ouvrir le concert que donne l'Orchestre National du Capitole ce jeudi 9 février à 20h à la Halle aux Grains. Et puis enfin, dernier concert à vous annoncer, celui du Sirba Octet à Saint-Pierre-des-Cuisines, mardi prochain, le 14 février à 20h, pour le compte de la saison des Arts Renaissants. Il y a aussi une guest star, pour ne pas dire un guest tsar. Je fais des jeux de mots aussi, vous avez vu. Hein. Oh là là. Au programme, Serge, donc c'est un balalaïkiste russe. Et oui. Le programme a d'ailleurs pour titre « Sir Balalaïka ».
Exactement. Donc ce grand artiste russe s'appelle Alexei Biryukov. Donc c'est un grand spécialiste de la balalaïka qui vient rejoindre les 8 musiciens de l'ensemble Sirba Octet, bien connu. Hein. Alors ce concert a dû être reporté au moins 2 fois.
Oui.
C'est incroyable. Il était prévu, toujours, hein, dans le cadre de la saison des Arts Renaissants, évidemment. Et puis, la pandémie en a décidé autrement. Donc, c'est enfin, on va pouvoir assister à ce programme, qui est un programme très particulier, effectivement, puisque c'est un programme qui veut mêler à la fois des musiques classiques, hein, des musiques tout à fait écrites, avec des inspirations des musiques de l'Est, des musiques
klezmer, slaves, klezmer, bien sûr.
Donc voilà. Alors, dans ce programme, ce seront des standards de la musique russe, tzigane et klezmer, et donc avec Alexei Biryukov à la balalaïka. Donc, c'est pas très souvent qu'on entend un concert avec une balalaïka en soliste. Et donc, c'est un programme dont on peut supposer qu'il va mettre en avant la rythmique étourdissante de ces musiques qui sont en fait composées pour la danse, hein, effectivement.
Ouais, donc, c'est beaucoup de musique populaire aussi.
Oui, oui, exactement, exactement.
Alors, ouais, il y a des classiques, il y a Kalinka, par exemple.
Bien sûr, Les Yeux Noirs, etc.
Il y a Le Temps du Muguet.
Oui, qui est des pièces que l'on connaît par ailleurs. Hein, donc, avec donc au violon Richard Schmuckler, violon et direction artistique, avec Laurent Manopalas qui est aussi au violon, Grégoire Vecchioni à l'alto, Claude Giron au violoncelle, Bernard Cazoran à la contrebasse, Philippe Béraud à la clarinette, Yuri Morar au cymbalum, instrument emblématique, hein, cymbalum, oui. Et Christophe Henry au piano, et tous les arrangements sont signés de Cyril Laine. Donc, un programme vraiment original là aussi, après le concert des percussionnistes dont on vient de parler, voilà, un deuxième concert
au même endroit. Et le lendemain même,
donc encore un programme original et très particulier.
Vous avez remarqué, lorsque vous avez donné la liste des musiciens, heureusement qu'il y a Alexei Biryukov pour donner la note slave.
Exactement.
Parce que le Sirba Octet, ce sont des musiciens français. Hein.
Oui, absolument, absolument.
Passionnés par ces musiques. Alors, pour ceux qui étaient présents, on les a vus, le Sirba Octet, et c'était avec Alexei Biryukov lors du concert des Arméniens de Toulouse qui a lieu tous les ans au mois de décembre à la Halle aux Grains. Je crois que c'était en 2021, j'étais présent et je les avais vus à l'époque, c'est formidable. Hein. C'est vraiment
très
formidable.
Bien, très bien.
Il y a beaucoup de choses dans ce programme, comme vous avez pu le comprendre, et pour faire un choix, ce n'était pas si simple. Alors pour vous faire ressentir l'esprit et vous en donner la couleur, j'ai choisi de vous faire écouter la suite de Moldavie. On écoute le Sirba Octet et Alexei Biryukov. Thank you. La suite de Moldavie, jouée par le Sirbaoktet et Alexei Biryukov, une des nombreuses pièces au programme du concert qu'il donne mardi 14 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, une soirée proposée par les Arts Renaissants pour laquelle je vous invite à réserver et à acheter vos places en ligne sur le site www.art-renaissant.fr. Nous sommes arrivés au terme du 218e numéro de Mélomanie, auquel je remercie chaleureusement Serge Ozy et José Filatro d'avoir participé. Ben José, vous revenez quand vous voulez, je n'ai même pas besoin de vous le dire, vous le savez. Je rappelle que José Filatro se produit avec Thibaut Buchaillet et Christophe Devarumez lundi 13 février à 20h également et aussi à Saint-Pierre-des-Cuisines. Tous les trois forment le trio de percussionnistes trilogistiques qui donne le prochain concert des Clés de Saint-Pierre avec un programme de composition originale signé Christophe Devarumez et José Filatro. Une curiosité à ne pas manquer, renseignements, réservations et achat des places en ligne sur le site lesclésdesaintpierre.org. Et je rappelle enfin que le jeudi 9 février à 20h, l'Orchestre National du Capitole est en concert à la Halle aux Grains, sous la direction de Wilson NG et avec le violoniste Luca Faulisi. Il y a un programme d'œuvres de Debussy, Chausson et Elgar. Vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité à cette émission. Excellente semaine musicale à tous.